C'est de deux petits ouvrages décisifs mais secondaires que nous allons parler aujourd'hui, ou secondaires mais décisifs, c'est selon, L'homme Moïse et la religion monothéiste, son dernier texte, et Un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci, la seule belle chose que j'ai écrite, disait Freud dans une lettre à Ferenczi du 13 février 1919. Et c'est en compagnie du psychanalyste Paul Denis, membre titulaire de la Société psychanalytique de Paris, qui a dirigé la revue française de psychanalyse de 1996 à 2004, et qui est notamment l'auteur du volume 3 consacré à Sigmund Freud aux presses universitaires de France dans la collection Psychanalyste d'aujourd'hui, et qui m'a apporté son Que sais-je sur les phobies, paru l'an dernier, que nous allons passer ces 50 minutes. Bonjour Paul Denis.
Bonjour, Raphaël Entoven.
Alors Paul Denis, commençons si vous le voulez bien par le souvenir d'enfance de Léonard de Vinci, texte tout à fait magnifique, un souvenir de terminale en ce qui me concerne. On avait un professeur que toutes ces affaires-là passionnaient. Donc le souvenir d'enfance de Léonard de Vinci et la question que pose Jean-Baptiste Pontalis. Jean-Baptiste
J.B. Jean-Bertrand.
Jean-Bertrand, voilà, j'ai un doute.
Mais tout le monde l'appelle J.B.
Mais oui, J.B. Donc Pontalis. Dans la préface à l'édition bilingue de l'ouvrage, voici ce qu'il demande. Qu'est-ce qui a poussé Freud, qui n'était ni historien ni de l'art, ni des sciences, et qui, reconnaissant lui-même n'être pas un visuel, ne s'est guère montré non plus grand connaisseur en peinture. Donc qu'est-ce qui a poussé Freud à entreprendre cet essai et à s'y consacrer avec tant d'ardeur, Paul Denis?
Il me semble qu'il y avait un point commun, en tout cas, entre Léonard de Vinci et Freud, qui était leur passion de l'investigation et de rechercher dans des terrains inconnus. Freud se définissait lui-même comme un conquistador, et d'une certaine manière, quelques siècles avant, eh bien, Léonard de Vinci a été un des conquistadors de la Renaissance, non seulement au niveau de la peinture, mais aussi en ce qui concerne Léonard de Vinci, dans ce qui est de l'ordre de la technique, dans ce qui est de l'ordre de l'anatomie et de recherches diverses sur les plantes et toute une série de domaines auxquels il s'est tout à fait passionné.
Et la peinture également, à laquelle il a renoncé, ce qui n'est pas innocent, dans l'analyse d'ailleurs que Freud donne d'un des tableaux de Léonard, dont on va parler ensuite.
Alors Freud donne une explication assez particulière à cela. Il pense que comme enfant, il a été habité, comme la plupart des enfants, par une curiosité sexuelle tout à fait insatiable et le désir de découvrir les secrets de la sexualité et de la procréation, ce qui est le cas de tous les enfants. Et qu'il a consacré une très grande partie de son énergie psychique et de ses pulsions à cette pulsion d'investigation pour constituer cette poussée à la connaissance, comme le dit Freud et comme le disent les traducteurs d'aujourd'hui, cette poussée à l'investigation. Et au moment de l'adolescence, il est allé dans l'atelier de Verrocchio et à ce moment-là, il a développé cette capacité à la sublimation artistique, qui est une variante très particulière de la sublimation, qui s'est développée à un point extrêmement élevé, mais qui ensuite, d'après Freud, a été en quelque sorte rattrapée, puis dépassée par ce vieux désir de conquête, de l'inconnu et de l'investigation, entre autres anatomique. Si bien qu'au bout d'un moment, il est devenu... Il s'est mis lui-même en difficulté par rapport à son art et il a laissé ses œuvres inachevées pour beaucoup d'entre elles.
Étonnant que Freud dise de cet ouvrage qu'il est la seule belle chose qu'il ait vraiment écrite. Enfin, la seule chose de beauté, en somme, qu'il ait choisi d'écrire. En somme, qu'il ait fait son seul livre d'artiste à propos d'un artiste qui lui-même en revient à ses premières amours scientifiques.
Oui, je crois que Freud avait un certain amour pour ce livre, pas seulement parce qu'il aimait bien Léonard de Vinci, que le personnage le fascinait tout à fait, comme il a beaucoup fasciné de gens, mais aussi parce que je crois que dans une certaine mesure, il a découvert en Léonard de Vinci son double dans différents registres, et en particulier dans cette pulsion à l'investigation et à la compréhension des domaines inconnus. Freud s'est découvert comme ça, à certains moments, des hommes qui ont beaucoup compté, qui ont été ses interlocuteurs ou ses modèles intérieurs. Et je pense que parmi ces rencontres, alors avec les personnages du passé, il y a eu Goethe, bien entendu, mais il y a eu Léonard de Vinci, qui lui ressemblait par des tas de côtés.
Une seule et unique fois, autant que je sache, Léonard a inséré dans un de ses écrits scientifiques une indication sur son enfance. À un endroit qui traite du vol du vautour, il s'interrompt soudain pour suivre un souvenir qui surgit en lui du fond de ses toutes premières années. Et là, c'est Léonard qui parle. Il semble qu'il m'était déjà assigné auparavant de m'intéresser aussi fondamentalement au vautour, car il me vient à l'esprit comme tout premier souvenir qu'étant encore au berceau, un vautour est descendu jusqu'à moi, m'a ouvert la bouche de sa queue et à plusieurs reprises a heurté mes lèvres de cette même queue. Un souvenir d'enfance donc, commentaire de Freud, et à vrai dire d'un caractère hautement déconcertant. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est étonnant que Freud s'attarde là-dessus et on va aller justement creuser ce souvenir d'enfance, hein, avec les erreurs et les approximations d'ailleurs qu'il implique. Hein,
oui, oui, Paul oui. Denis. Alors, Freud a évidemment été tout à fait intéressé et intrigué par le côté très déconcertant de ce souvenir, qui est évidemment à peu près impossible. Alors évidemment, les traducteurs modernes ont fait remarquer qu'il ne s'agissait pas d'un vautour mais d'un milan, mais enfin il s'agit d'un oiseau de proie dans les deux cas.
Oui, mais enfin c'est important parce que l'étymologie de vautour, ensuite il s'en sert.
Oui, oui, c'est
donc
vrai.
On va aller vers ça aussi.
On reviendra là-dessus, sur la façon dont il utilise la culture et la culture égyptienne. Mais l'important, c'est que c'est un oiseau de proie. Et c'est quelque chose qui n'a pas été tellement souligné par les commentateurs du Léonard de Freud, qu'il s'agit d'un oiseau de proie et que cet oiseau est un oiseau qui saisit, en quelque sorte. Alors, évidemment, c'est un souvenir complètement irréaliste. Et Freud montre que c'est à peu près impossible qu'au berceau, un souvenir comme ça puisse persister. En revanche, il pense que c'est quelque chose qui s'est élaboré après, comme beaucoup de souvenirs, d'ailleurs, qui sont des élaborations après coup d'événements qui se sont produits, et qu'il s'agit essentiellement de l'amour de la mère. Et à la fin du livre, il dit qu'au fond, ce souvenir d'enfance, c'est le souvenir des baisers passionnés que sa mère pouvait lui donner.
Mais alors, le souvenir passionné des baisers que sa mère pouvait lui donner est également, pour Freud, la découverte, par Léonard de Vinci d'ailleurs lui-même, semble-t-il dire, de son homosexualité.
Alors, c'est dans l'esprit de Freud tout à fait lié. Et c'est vrai que dans la clinique de tous les jours, les psychanalystes reconnaissent très souvent chez des patients qui ont une organisation homosexuelle prépondérante une proximité avec le personnage maternel de différentes manières qui les rend fidèles à leur mère et qui leur fait éviter ensuite de s'engager dans la vie avec d'autres femmes.
Vous voulez dire que l'homosexualité est maternellement déterminée ?
Maternellement déterminée, en grande partie. Au moins certaines formes d'homosexualité, car on a tendance aujourd'hui à dire l'homosexualité, L, apostrophe, H majuscule. Il y a des homosexualités. Et en particulier, je crois que l'un des grands intérêts du livre de Freud sur Léonard de Vinci, c'est de développer l'idée du caractère extrêmement précieux et porteur pour le psychisme de ce qu'on pourrait appeler l'homosexualité psychique. Car même si on peut penser qu'il y avait tout un courant homosexuel extrêmement vif chez Léonard de Vinci, il ne semble pas qu'il ait eu une vie sexuelle homosexuelle bien développée. Il a peut-être connu quelques expériences homosexuelles, mais c'est peu probable, d'après ce que disent les biographes. Et l'essentiel était son homosexualité psychique et la construction de son psychisme par rapport à sa mère.
Alors, la traduction, dit Freud, hein, tend vers l'érotique que, coda, et du nombre des symboles et désignations substitutives les plus connus du membre viril, en italien non moins que dans d'autres langues. La situation contenue dans la fantaisie, donc le rêve du vautour, un vautour ouvre la bouche de l'enfant et y fourrage vigoureusement avec la queue, correspond à la représentation d'une fellation, d'un acte sexuel, lors duquel le membre est introduit dans la bouche de la personne impliquée. Il est déjà étrange, ajoute Freud, que cette fantaisie comporte un caractère si généralement passif. De plus, elle ressemble à certains rêves et fantaisies de femmes ou d'homosexuels passifs qui, dans le commerce sexuel, jouent le rôle féminin. Est-ce qu'on peut dater de ce livre le lien qu'ordinairement la psychanalyse fait entre le rapport à la maman et un devenir homosexuel ?
Sûrement, sûrement. Je pense que c'est vraiment de là que ça vient. Ce qui est très particulier dans la démarche de Freud, c'est qu'il analyse, au fond, le souvenir d'enfance griffonné par Léonard de Vinci sur un bout de page. Il l'interprète comme il le ferait d'un rêve rapporté par un patient. C'est-à-dire que si Freud avait eu Léonard sur son divan et que Léonard lui ait rapporté ce souvenir en tant que rêve, je crois qu'il l'aurait interprété comme ça, la queue, la coda, donc le sexe masculin, la fellation, et donc tout un élément d'élaboration et d'interprétation tout à fait analogue à ce qu'il faisait avec les rêves de ses patients.
façon qu'il a donc d'allonger les morts sur son divan.
Oui, tout à fait. Les morts, mais aussi les vivants. Pour le président Schreiber, enfin là, ça nous éloignerait du sujet, mais pour le président Schreiber, il a allongé le président Schreiber, qui était bel et bien vivant, sur son divan, à travers un écrit, parce qu'il n'a jamais rencontré Schreiber pour une conversation quelconque. Mais effectivement, il allongeait les morts, ou les écrivains, ou les artistes sur son divan, mais je crois que c'était une façon de s'allonger lui-même sur le divan. Et de faire une forme d'auto-analyse à travers les œuvres d'art. C'est André Greene qui a une assez belle formule quand il dit que dans des analyses de textes littéraires, eh bien, c'est le psychanalyste qui est l'analysé du texte. Eh bien, je crois que dans une certaine mesure, Freud a été l'analysé de Léonard de Vinci d'une certaine façon. Il faisait son auto-analyse avec des correspondants, Fliss, avec Léonard de Vinci, il l'a fait ensuite avec Romain Rolland, avec qui il a fait une sorte de tranche d'analyse par correspondance, avec des conversations.
Enfin,
avec...
c'était surtout sa propre homosexualité, là, en l'occurrence, qui était en jeu avec Fliss.
Mais bien entendu.
Mais même avec Ferenczi, d'ailleurs, ou même avec Jung, d'une certaine façon.
Mais bien entendu, et avec ses limites, c'est-à-dire la capacité qu'il avait à l'homosexualité psychique, c'est-à-dire à échanger avec des hommes, des pensées, des amitiés, des sentiments très forts, mais en même temps les limites que ça pouvait avoir, puisque à certains moments les choses tournaient mal, comme ça a été le cas avec Fliss, et comme ça a été le cas avec Jung, mais les deux personnages étaient des personnages un petit peu particuliers, disons.
Baroque, hein. Baroque l'un et l'autre, ils avaient des théories, comme
oui,
on dit.
Oui, Fliss était baroque, et quant
Jung,
à
occultiste.
Jung, occultiste, et il a terminé sa vie... un peu comme un vieux psychotique.
Côté.
Oui, il était tout de même assez lourdement marqué par la psychopathologie.
Lorsque la recherche médicale sur l'âme, qui d'ordinaire se contente d'un matériel humain médiocre, aborde l'un des grands du genre humain, elle n'obéit pas pour autant aux motifs qui lui sont si fréquemment imputés par les profanes. Elle ne tend pas à noircir ce qui rayonne, ni à traîner le sublime dans la poussière. Les deux dernières lignes, hein, sont deux vers de Schiller. Que Freud reprend, cette image de traîner le sublime dans la poussière est très importante, puisque elle en dit long sur le fait que Freud commence son texte en se défendant de porter atteinte à la mémoire d'un tel homme, d'un tel individu. Façon de dire que le livre, effectivement, porte atteinte à la mémoire de Léonard de Vinci, non ?
D'une certaine manière, c'est-à-dire, je crois que...
Est-ce que toute la psychanalyse n'est pas là, justement, traîner le sublime dans la poussière ?
Alors, non, elle ne traîne pas le sublime dans la poussière, mais elle montre que le sublime s'enracine dans la poussière, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. En revanche, être traîné dans la poussière, eh bien, c'est ce dont Freud a été très très souvent victime de la part de ses détracteurs, et à chaque époque, il y a eu des anti-freudiens qui ont cherché à salir Freud d'une certaine manière, et n'ont pas eu avec lui le respect que lui-même avait par rapport aux écrivains ou aux artistes auxquels il s'intéressait.
Mais qu'est-ce qui distingue, Paul Denis, la démarche de Freud avec Léonard de Vinci, du plus racoleur des biographes, de la moins autorisée des biographies, en somme? Si aujourd'hui la biographie d'une idole paraissait et que son biographe, sans le génie de Freud, s'aventure à raconter l'un de ses rêves et à en livrer l'interprétation psychanalytique, on crierait au scandale, à l'indiscrétion, à l'impudeur. Qu'est-ce qui fait que Freud, on en parlait avec Elisabeth Roudinesco l'autre jour, qu'est-ce qui fait que Freud n'est pas impudique à l'instant où il raconte les désirs de fellation de Léonard de Vinci?
Alors, je crois d'abord qu'il a un respect très considérable pour Léonard de Vinci. Que d'autre part, il a aussi un respect tout à fait considérable pour la vie sexuelle des gens, quelle qu'elle soit. Et je crois que ce sont deux points tout à fait importants. Et l'intention de son travail n'est pas du tout de salir, de donner de la poussière, mais au contraire, de faire comprendre qu'il y a un lien entre le sublime et la poussière.
Alors écoutons-le justement décrire la figure de Léonard de Vinci.
Il n'appartenait pas d'ailleurs à ce type d'hommes géniaux qui, chichement pourvus par la nature quant à leur extérieur, n'attachent pour leur part aucune valeur aux formes extérieures de la vie et qui, dans le douloureux assombrissement de leur humeur, fuient le commerce des hommes. Il était, au contraire, grand et de proportions harmonieuses, d'une beauté achevée du visage, et d'une force corporelle inaccoutumée. Enchanteur dans ses manières avec les autres, maître du discours, enjoué et aimable envers tous. Il aimait aussi la beauté dans les choses qui l'entouraient, portait volontiers des vêtements fastueux et appréciait tout raffinement dans la conduite de sa vie. Dans un passage de son traité de la peinture, significatif de son aptitude enjouée à la jouissance, il a comparé la peinture aux arts apparentés et décrit les incommodités du travail du sculpteur. Le voici avec le visage tout barbouillé et poudré de poussière de marbre, si bien qu'il a l'air d'un boulanger et est tellement recouvert de petits éclats de marbre qu'il semble avoir reçu de la neige sur le dos, et sa demeure est pleine d'éclats de pierre et de poussière. C'est tout le contraire dans le cas du peintre, car le peintre est assis très confortablement devant son œuvre, bien habillé, et manie le très léger pinceau aux aimables couleurs. Il est paré d'habits à sa guise, et sa demeure est pleine de peintures enjouées d'une propreté resplendissante. Il a souvent de la compagnie, musique ou lecteur de diverses belles œuvres, ce qu'on écoute avec grand agrément, sans fracas de marteau ni autre bruit.
Denis, on parlait de poussière tout à l'heure, traîner le sublime dans la poussière, c'était le vers de Schiller qui commençait le souvenir d'enfance de Léonard de Vinci. On la retrouve ici dans l'atelier du sculpteur, hein, le sculpteur barbouillé de poussière, dont d'une certaine façon on pourrait faire une métamorphose du psychanalyste, me semble-t-il, celui qui met les mains à la pâte, ou alors peut-être de l'analysant.
Freud a pris les deux métaphores, et celle du sculpteur et celle du peintre, pour parler du travail du psychanalyste.
Et mais est-ce que le sculpteur n'est pas plus près de son approche que le peintre,
hein? Il disait que le... Oui, peut-être dans la mesure où il disait que l'analyste travaillait per via di levare, c'est-à-dire en enlevant quelque chose. Et d'une certaine manière, l'analyste lève les résistances, lève le refoulement et fait apparaître quelque chose.
Alors, on a dans le rapport de Freud à Léonard de Vinci, et dans ce texte donc tout à fait étonnant, ce souvenir d'enfance de Léonard de Vinci, l'analyse donc d'un vautour, on va revenir dessus un instant, l'analyse d'un vautour qu'il fait à la faveur de l'examen d'un tableau fameux de Léonard de Vinci, la Vierge, l'enfant Jésus et Sainte Anne. Alors, première question, pourquoi la Vierge et Sainte Anne en même temps?
Alors, Freud avait l'idée que dans la vocation artistique et dans le déroulement de la vie de Léonard, l'influence de ses deux mères, sa mère naturelle et la femme de son père qui n'avait pas pu avoir d'enfant et qu'il avait en quelque sorte adopté quand il avait 5 ans, concurremment avec sa mère, avait joué un rôle extrêmement important. Et je pense que dans cette figure de la Vierge et Sainte Anne, il y a là une figuration des deux mères portant le même enfant.
Freud parle d'un vautour, donc qui vient fourrager dans la bouche de l'enfant Léonard, ou plus exactement Léonard parle d'un vautour qui lui vient dans la bouche. Vautour d'ailleurs dont un certain nombre de commentateurs, notamment Oscar Pfister, s'amusent à retrouver le dessin dans le tableau même de Léonard de Vinci en expliquant que l'aile droite du vautour part sous les fesses de Marie, la pauvrette, et que l'aile gauche fait le lien entre le nez de l'enfant Jésus et le menton de sa maman divine. Ce vautour dont la queue vient lui chatouiller la bouche et où Freud voit l'aveu, si aveu il y a d'ailleurs lieu de faire, d'une homosexualité, ce vautour n'était pas un vautour, c'était un milan. C'est une erreur de traduction de Freud, vraisemblablement. Et à partir de cette erreur de traduction, toute une série d'interprétations critiques sur le souvenir d'enfance de Léonard de Vinci ont vu le jour. Est-ce qu'on peut revenir ensemble sur cette affaire?
Oui, bien sûr. Freud avait des intuitions à partir de la lecture du matériel littéraire ou des souvenirs, comme le souvenir du vautour donné par Léonard de Vinci, comme il aurait fait avec un rêve donné par un patient. Et ensuite, il cherchait à nourrir son argumentation. Et je pense que dans la façon dont il fait le lien entre le vautour évoqué par Léonard, le Milan, et puis les vautours de la déesse égyptienne Mout, je pense que... Alors, il suppose que Freud...
il suppose... C'est important, parce que Mout, la déesse égyptienne, c'est la déesse vautour. Or, Mout, il le rapproche de Mouter.
Oui, Mouter.
Et maman, donc la mère.
Oui, bien sûr.
Si c'est un Milan, ça ne marche plus.
Ça ne marche plus. Mais je pense que c'est une argumentation a posteriori. C'est-à-dire que là, je crois qu'il veut trop prouver. En revanche, je pense que, très profondément, il décrit là quelque chose d'extrêmement important, qui est l'imago maternel et l'imago maternel phallique. C'est-à-dire ce personnage tout-puissant que constitue la mère, qui est à la fois un personnage féminin, mais en même temps qui est doué d'un phallus et qui est doué d'un pouvoir tout à fait considérable et aussi de l'abus de pouvoir éventuel qu'elle peut exercer sur un enfant, surtout quand elle est seule avec lui.
Alors c'est vrai que 6 ans plus tard, Freud, dans une note, ajoutera que le grand oiseau pourrait bien n'avoir pas été un vautour, mais dans la même note, il expliquera que se pose la question de savoir si c'est là un souvenir réel ou si c'est la trace laissée dans la mémoire du petit Léonard par le récit que lui en aurait fait donc sa maman. En somme, ce qui compte dans cette affaire, c'est le symbole plus que l'étymologie ou l'entreprise d'archéologie du mot
absolument.
Qui est la sienne.
C'est le symbole et la perception par Freud que l'imagination de l'enfant a été capable de constituer cette image du vautour à partir de ses expériences tendres avec sa mère, mais aussi à partir de cette expérience d'être comme enserré par sa mère pendant toute la période de sa vie où il a vécu seul avec elle de 0 à 5 ans.
Quand on analyse quelqu'un, Paul Denis, quand on écoute quelqu'un, puisque la psychanalyse est, et on le reconnaissait à Freud d'ailleurs assez tôt, hein, c'était je crois Ernest Jones qui le reconnaissait à Freud, il disait c'est quelqu'un qui écoute ses patients avant de les examiner, ou la façon qu'il a de les examiner c'était de les écouter. La nature de l'écoute ne doit pas être polluée, j'imagine, ou envahie, ou investie par l'amour propre de celui qui écoute, le moi de celui qui écoute. Or, pourtant, on a constamment le sentiment que Freud parle de lui-même, quand il parle de Léonard, comme quand il parle des autres, d'ailleurs même quand il parle du petit Hans, ou quand il parle de ses patients. Quel est le statut de celui qui pratique la thérapie analytique, justement? D'ailleurs, on ne sait jamais si celui-là est le patient ou celui qui écoute.
Alors, on pourrait dire que l'analyste a 2 patients, son patient et lui-même, et que son travail est de faire le tri en permanence entre ce qui se passe chez l'un et ce qui se passe chez l'autre, de manière à ne restituer au patient que ce qui lui appartient à lui, le patient, et à garder pour lui ce qui le concerne, lui, l'analyste.
De là l'importance qu'il y a à ne pas prendre pour de l'amour ce qui n'est qu'un transfert.
Exactement. Et à ne pas prendre le contre-transfert, c'est-à-dire tout ce qui se déroule d'inconscient dans la tête de l'analyste par rapport au patient, pour une vérité appartenant au patient, mais pour quelque chose qui concerne l'analyste lui-même. Alors, en ce qui concerne Freud, c'est certain qu'il parle de lui quand il parle de Léonard de Vinci, c'est certain. Pas uniquement de lui, mais en grande partie de lui. En revanche, quand il parle de l'Homora, je crois qu'il parle vraiment de l'Homora.
Il faut rappeler à l'auditeur qui était l'Homora quand même. Tout le monde n'a pas en tête cette histoire fameuse et très belle d'ailleurs.
Oui, c'est une très belle histoire. C'est un exemple d'analyse rapportée par Freud dans 5 psychanalyses que l'on trouve très facilement en librairie et qui est un cas tout à fait exemplaire de la technique de Freud à ce moment-là. Et ce jeune homme qui s'appelait Ernst Lers était venu le voir avec des préoccupations obsessionnelles extrêmement importantes. Et la façon dont Freud l'a analysé, écouté et compris est tout à fait remarquable et extraordinairement enrichissante pour tous les analystes d'aujourd'hui. Et on relit toujours l'Homora avec un intérêt très considérable, même si on ne donne pas forcément aujourd'hui la même lecture du matériel que celle qu'en a donné Freud au moment où il l'a écrit.
Alors je renvoie ici au chapitre thérapie et technique, d'ailleurs, dans la biographie que Peter Gay consacre à Freud, qu'on trouve chez Hachette, excellente biographie, le chapitre 6, qui commence justement par le récit de ce jeune homme de 29 ans, qu'on a ensuite, pour l'éternité, appelé l'homme aura. Mais allez-y. Oui.
Alors, je trouve que dans le cas de l'homme aura, Freud parle vraiment de l'homme aura. Alors évidemment, il le comprend à travers lui-même, mais il parle de l'homme aura et beaucoup plus qu'il ne parle de Léonard de Vinci dans le Léonard de Vinci.
L'apport spécifique de la psychanalyse pouvait consister à reconstruire, par recoupement des impressions vécues, des destinées fortuites et des œuvres de l'artiste, sa constitution et l'émotion pulsionnelle qui était à l'œuvre en elle, soit ce qu'il y avait en lui d'universellement humain. C'est dans une telle intention que j'ai pris, par exemple, Léonard de Vinci comme objet d'une étude qui repose sur un seul souvenir d'enfance communiqué par lui-même et qui vise pour l'essentiel à expliquer son tableau, la Vierge, l'enfant Jésus et Sainte Anne. Mes amis et élèves ont ensuite entrepris un grand nombre d'analyses semblables sur des artistes et leurs œuvres. Il n'est point arrivé que le plaisir pris à l'œuvre d'art fût gâté par l'intelligence analytique ainsi obtenue. Mais il faut confesser au profane, qui attend peut-être ici trop de l'analyse, qu'elle ne jette aucune lumière sur deux problèmes qui sont sans doute ceux qui l'intéressent le plus. L'analyse ne peut rien dire qui éclaire le problème du don artistique, de même que la mise au jour des moyens avec lesquels l'artiste travaille, soit de la technique artistique, ne relève pas de sa compétence. Sur France Culture, ou plus exactement François Liszt, comme disait Vladimir Jankélévitch, qui n'aimait guère les Allemands, en tout cas tout ce qui avait une consonance germanique. Et pourtant, Jankélévitch, d'ailleurs, dont le père, Samuel Jankélévitch, est le premier traducteur du souvenir d'enfance de Léonard de Vinci, et qui lui-même était profondément imprégné de culture allemande. Paul Denis est avec nous dans Les Nouveaux Chemins de la Connaissance pour parler du souvenir d'enfance de Léonard de Vinci, puis on va parler ensuite un peu de l'homme Moïse et le monothéisme et la religion monothéiste. Une chose quand même, le texte que j'ai lu juste avant, Paul Denis, est extrait de Freud présenté par lui-même, qui est un texte qui date de 1925, me semble-t-il, dans lequel Freud donc ne peut pas évoquer par exemple l'homme Moïse, qui est plus tardif, mais dans lequel donc il revient sur son travail sur Léonard de Vinci, et il dit quand même que d'une part l'analyse du souvenir d'enfance et de l'œuvre de Léonard de Vinci n'entame pas le plaisir pris à l'œuvre. Bon, très bien. Mais la contrepartie de cela, c'est que, par ailleurs, au fond, elle ne dit rien du don artistique de Léonard de Vinci. Et tout ça reste une énigme.
La psychanalyse ne dit rien sur le génie. Elle peut dire des choses sur le thème, elle peut dire quelque chose sur les conditions de vie qui ont conduit un homme à choisir le génie, mais qui aurait pu le conduire à choisir la névrose, l'inhibition ou le délire. Et Freud était aussi, je crois, extraordinairement respectueux des artistes, de leur capacité de création, et il se refusait à réduire le talent, l'inspiration artistique à des formules pulsionnelles ou à des sortes de grilles psychanalytiques.
Mais Freud en même temps, c'est quand même le paradoxe de Freud, on n'arrête pas de revenir dessus dans les émissions qu'on lui consacre, Paul Denis. Freud est à la fois un scientifique qui applique des grilles et en même temps, il est le premier à dire que ces grilles ne sont pas une valeur absolue.
Absolument, absolument, mais je pense que les vrais scientifiques sont comme ça, c'est-à-dire qu'ils créent un outil de compréhension qui est valable dans un certain nombre de conditions de température et de pression et qui, au-delà, ne sont plus valables. Et c'est du reste une des...
Vous voulez dire que la vérité n'est pas l'objet de la psychanalyse ?
La vérité relative est l'objet de la psychanalyse, mais pas la vérité avec un V majuscule. Non, sûrement pas. La vérité relative d'un être humain, du psychisme de quelqu'un à un moment donné de sa vie, ça oui. mais la vérité en soi, sûrement pas, sûrement pas.
Préservation de l'énigme chez Freud.
Absolument.
Et du mystère, on retrouve ça. Alors, quittons un instant ce beau tableau, la Vierge, l'enfant Jésus et Sainte Anne, pour en venir à un autre, archi connu, la Joconde. Freud préserve l'énigme du sourire de la Joconde.
Oui.
Et tient presque à le préserver. Il est presque gardien de l'énigme, en l'occurrence.
Ah oui, oui, absolument. Et enfin, il en dit quand même quelque chose. C'était que Freud avait retrouvé sur le visage de son modèle, Mona Lisa, le sourire comblé de sa propre mère. Et qu'il a été fasciné par ce sourire de ce fait.
Oui, mais dire cela n'est pas résoudre l'énigme d'un sourire.
Ni de la beauté de l'œuvre, ni la perfection de l'œuvre. Et je pense à l'instant à une conversation rapportée par Valéry entre Mallarmé et Degas. Degas faisait de la poésie et de temps en temps il allait pleurer dans le giron de Mallarmé parce qu'il n'y arrivait pas, ses sonnets n'avançaient pas. Et un jour, il se plaignait à Mallarmé en lui disant « Mais je n'y arrive pas et pourtant j'ai des idées. » Et alors Mallarmé lui a dit « Mais vous savez, Degas, la poésie, ça se fait avec des mots, pas avec des idées. »
Essayons de nous approcher de notre objet par le côté opposé. Nous comprenons que le primitif ait besoin d'un dieu en tant que créateur du monde, chef suprême de la tribu, protecteur personnel. Ce dieu a sa place derrière les pères défunts dont la tradition peut encore dire quelque chose. L'homme d'époque postérieure, de notre temps, se conduit de la même manière. Lui aussi demeure infantile et a besoin de protection, même lorsqu'il est adulte. Il estime qu'il ne peut se priver de s'appuyer sur son dieu. C'est là un fait incontestable. Mais il est moins facile de comprendre pourquoi il ne doit y avoir qu'un seul Dieu. Pourquoi justement le progrès de l'énothéisme au monothéisme acquiert une signification capitale. Sans doute, comme nous l'avons exposé, le croyant prend-il part à la grandeur de son Dieu. Et plus le Dieu est grand, plus sûr est la protection qu'il peut dispenser. Mais la puissance d'un Dieu n'a pas comme condition nécessaire d'être unique. Beaucoup de peuples ne virent qu'une magnification de leur Dieu suprême dans le fait qu'il dominait d'autres dieux, ses subalternes. Ils ne virent pas une diminution de sa grandeur dans le fait que d'autres dieux existaient en dehors de lui. Lorsque ce Dieu devint universel et se soucia de tous les pays et de tous les peuples, cela signifia aussi qu'il sacrifiait une part de son intimité. On partageait en quelque sorte son Dieu avec les étrangers. Et on devait s'en dédommager en se réservant de penser qu'on était ses favoris.
Changement de décor, hein, cette fois-ci, Paul Denis. On est passé du souvenir d'enfance de Léonard de Vinci, dont on aurait pu parler encore pendant quelques heures, à l'homme Moïse, dont on va trop peu parler aujourd'hui. Mais bon, ce sera toujours ça de donner. Paul Denis, l'homme Moïse et la religion monothéiste, quand Freud l'écrivait, il était si malade d'ailleurs, que Marie Moscovici raconte dans la préface qu'elle en fait dans l'édition Folio, raconte cet aveu de Freud. Il dit « Je n'attends plus que le Moïse », phrase qu'on peut entendre d'ailleurs de plusieurs façons, non ?
Oui, oui, c'était l'époque où il lisait la peau de chagrin de Balzac, qui est le dernier roman qu'il ait lu, et il a écrit donc, enfin il attendait effectivement la parution de l'homme Moïse. Et je pense que dans son souci de voir paraître Moïse et le monothéisme, il y avait aussi en arrière-plan les persécutions antisémites dont il avait été lui-même l'objet à Vienne. Et je crois qu'il attachait d'autant plus de prix à la parution de ce livre à ce moment-là.
Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que L'homme, Moïse et Maudvi n'est pas un livre sur le judaïsme. C'est un livre sur le monothéisme.
C'est un livre sur le monothéisme, mais c'est aussi un livre où il parle du judaïsme et de tout ce qu'a pu apporter, sur le plan de la civilisation, le choix d'une civilisation monothéiste et d'une religion paternelle.
Il dit du judaïsme qu'il est porteur de mémoire psychanalytique.
Oui, peut-être, peut-être. En tout cas, un mode de pensée qui favorise sûrement l'intérêt pour l'esprit et l'élaboration psychique des conflits, des faits de culture, incontestablement. C'est du reste assez intéressant de rapprocher un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci de Moïse et le monothéisme, parce que d'une certaine manière... le Léonard de Vinci est placé sous le signe de la mer, alors que Moïse et le monothéisme est au contraire un éloge de la figure paternelle dans sa fonction organisatrice et dans sa fonction de soutien aux activités de sublimation et aux activités de l'organisation sociale.
C'est une reprise de Totem et Tabou. C'est
oui,
une
oui.
reprise de l'épisode de la Horde primitive dans Totem et Tabou. Il faut raconter ça à l'auditeur.
Oui, alors, en 1913, Freud a fait paraître un ouvrage, Totem et Tabou, qui est un de ses grands ouvrages de lecture de culture, où à partir de textes d'ethnologues, il a échafaudé une sorte d'hypothèse très étrange, d'une certaine façon, sur l'origine de la société, et qui tente à expliquer, au fond, le passage de la horde à la société. Selon lui, la première forme sociale aurait été une sorte de horde où un seul mâle aurait eu toutes les femmes et aurait brimé et écrasé, au fond, les enfants mâles qui seraient nés de ce système, un petit peu sur le modèle de ce qu'on connaît des gorilles aujourd'hui. Et puis que les frères se seraient révoltés, auraient tué le père de la horde primitive et auraient organisé une sorte de société démocratique, si l'on peut dire, où il y aurait eu à ce moment-là un partage des femmes et où une société se serait constituée sur un tout autre mode. Et cette espèce de mythe de la horde primitive, dont il est fort douteux qu'elle ait existé à un moment donné, mais est tout de même un mythe qui est tout à fait intéressant et où on retrouve des mécanismes que l'on voit fonctionner dans les groupes et aussi alors dans l'inconscient de chaque individu.
Mais alors, il faut raconter que Freud décrit, lui, le meurtre de Moïse. Pour lui, Moïse a été assassiné.
Oui, oui. Et c'est de ce point de vue-là une reprise de la horde primitive et du meurtre du père de la horde primitive.
Est-ce que René Girard dit autre chose dans La violence et le sacré, par exemple, quand il décrit justement la constitution du groupe par le sacrifice symbolique d'un individu, la structure du bouc émissaire, finalement?
Je pense que beaucoup d'auteurs, et Girard entre autres, ont été influencés par la lecture de Totem et Tabou et par les théories de Freud.
Mais est-ce un livre sur le judaïsme, ou en tout cas qui traite du judaïsme, par le décryptage du mécanisme du bouc émissaire ou bien par l'objet qu'il se donne et la figure de Moïse, tout simplement?
Il ne traite pas directement du judaïsme, mais le judaïsme y tient une place tout à fait importante puisque, malgré tout, il en décrypte une figure absolument centrale, hein, qui est la figure de Moïse. Il le fait d'ailleurs avec un talent et un scrupule tout à fait particuliers.
Alors, il y a la figure de Moïse, et il y a chez Freud également deux figures qu'il aime bien, qu'il aime beaucoup, le Christ et Paul. À quoi tient cette dilection plurielle de Freud, à la fois pour le Christ, pour Paul et pour Moïse?
Alors, Freud a dit de lui qu'il tenait à une double culture judaïque par
et
ses
grec,
parents.
Hein.
Grec, bien sûr, par sa culture, mais judaïque par ses parents et chrétienne par sa nania, qui était la bonne qui s'occupait de lui quand il était petit et qui l'emmenait en cachette à la messe à Freiberg, où il y avait, dans l'église de Freiberg, d'ailleurs, la première chose qu'on voyait en entrant, c'était une statue de Moïse qui se trouvait là dans l'église. Et cette double culture l'a influencé. Et il y a eu des gens pour dire que ça avait été sûrement une des choses qui avait pu permettre à Freud une sorte de jeu intérieur et qui lui avait sûrement permis de comprendre un certain nombre de choses du point de vue psychanalytique.
Donc, revenons en amont de tout cela. Paul Denis, donc, au début de son ouvrage, dans lequel Freud, s'inspirant d'ailleurs de l'ouvrage d'Otto Rank sur le mythe de la naissance du héros, qui date finalement du début du siècle, Freud, d'abord, compare la naissance de Moïse avec différents mythes relatifs à l'origine du héros, et s'attarde quand même sur la démonstration que que Moïse n'est pas juif, mais égyptien.
C'est assez curieux de dire qu'il fasse cette démonstration-là.
C'est pour ça que je vous pose la question, sans la poser d'ailleurs, parce que ça laisse perplexe en général quand on demande pourquoi.
Mais effectivement, c'est effectivement difficile de se faire une
idée. Pourquoi ce dernier livre, son testament, consiste-t-il à dire que Moïse est égyptien?
Et il me semble, si vous voulez, qu'il avait, par rapport à la religion, à la fois un respect très considérable. Il disait lui-même qu'il avait le respect des vieux juifs et des juifs pieux. Mais il avait aussi une très grande méfiance par rapport à la religion, et il pensait que dans l'évolution de la pensée, il y avait eu une période de pensée magique, puis une période de pensée religieuse, et qu'il y avait une période de pensée scientifique. Et il pensait que cette forme de pensée scientifique était supérieure. Et d'une certaine manière, il est un peu anti-religieux sur le plan, non pas sur le plan des pratiques ou du respect de la religion, mais anti-religieux sur un plan intellectuel. Et je pense que le fait de s'attaquer à Moïse et à un personnage aussi mythique que Moïse, et de dire « mais après tout, il était peut-être égyptien », je crois que c'est une façon de s'attaquer à un système de croyances et de proposer des croyances, une lecture qui serait une lecture scientifique. Il me semble que c'est ça, essentiellement, le sens de la démarche de Freud à ce moment-là.
Il nous devint subitement clair que Moïse fut un égyptien, probablement de haut rang, dont la légende a fait un juif. Alors que d'habitude un héros s'élève au cours de sa vie au-dessus de ses humbles commencements, la vie de héros de l'homme Moïse débuta par un abaissement. Il descendit de sa hauteur pour aller vers les enfants d'Israël. Petite pièce de Bartok qui nous accompagne d'ailleurs tout au long de cette émission avec vous, Paul Denis. C'est le choix de Jean-Claude Loiseau, notre réalisateur qui ne se trompe jamais en matière de musique. Alors, revenons à l'homme Moïse et la religion monothéiste. Voilà un homme donc dont il décrit le parcours comme un abaissement. Il passe de la famille royale égyptienne au judaïsme, comme si c'était un choix. Et il établit ensuite un parallèle à l'intérieur même du monothéisme entre la religion d'Akhenaton et le judaïsme comme tel. Deuxième moment. Alors, est-ce aussi troublant que la volonté de démontrer que Moïse était égyptien et non pas juif?
Je crois que c'est un peu du même ordre, mais je pense que c'est beaucoup plus décalqué sur l'évolution du psychisme de l'enfant, qui, au départ, voit son père comme un dieu, et comme un noble, comme un personnage extraordinaire, et qui ensuite redescend du piédestal où l'enfant l'a mis pour devenir un homme ordinaire qui devient simplement chef de famille. Et ce qui lui donne d'ailleurs un rôle finalement beaucoup plus important en tant qu'interlocuteur direct et en tant que, en l'occurrence, pour un père de famille, éducateur, soutien, personne qui vous aime et que l'on aime, mais dans le cas de Moïse, pour devenir le chef d'un groupe et celui qui a donné sa religion à tout un peuple. Si bien que ce n'est pas une si grande descente que ça. Je pense que c'est aussi une forme d'assomption du personnage. Mais je crois que ça retrace ce parcours où l'enfant voit d'abord son père comme un dieu, comme un haut personnage, et il le fait redescendre ensuite sur terre pour lui donner sa fonction paternelle pleine et entière. Et il y a un texte de Freud très intéressant qui s'appelle « Le roman familial des névrosés », où Freud montre que la plupart des enfants, à un moment donné, vers 6-7 ans, imaginent qu'ils ne sont pas les fils ou le fils de leur père, mais de quelques grands personnages qui leur auraient donné naissance. Et que ses parents ne sont pas ses parents. Alors il en donne une explication qui est que ça autorise du coup le désir pour la mère, qui n'est plus la mère et qui pourrait donc être possédée. Mais cette rêverie grandiose, dans une certaine mesure, est celle que Freud nourrit à propos de Moïse, hein, un grand d'Égypte. Hein.
En somme, quelqu'un dont le rêve serait réalité, en l'occurrence.
Oui, enfin, je pense qu'il y a dans le fait de dire le père de la religion était un grand d'Égypte, peut-être le fils d'un pharaon, c'est quelque chose qui, de mon point de vue, tient un peu du roman familial que Freud a décrit dans un autre contexte.
Est-ce que vous êtes partisan d'une rejudaïsation de Freud ? Je pense à Yerushalmi, par exemple, qui essaie d'interpréter Freud sous l'angle de son judaïsme et qui dit qu'en fait, le judaïsme était plus important dans le travail de Freud que Freud lui-même, d'ailleurs, pouvait le reconnaître.
Hein. Certainement. Il y a eu David Bacan aussi qui a écrit un livre là-dessus sur Freud et la pensée mystique juive. Incontestablement, il a été extrêmement influencé.
Mais ce judaïsme de la diaspora frénétiquement anticommunautaire qui trouvait des vertus aux gens qui n'étaient pas juifs, tout simplement parce qu'ils ne l'étaient pas, comme Jung par exemple, ce judaïsme-là est opératoire à quel endroit chez Freud ?
Ah, je pense qu'il l'est au niveau de la pensée et au niveau de la rigueur morale aussi. C'est-à-dire que je pense que dans...
C'est son calvinisme qui fait de lui un juif, vous voulez
dire. J'allais dire son moïsisme, plutôt. Je crois que dans l'homme Moïse, il s'identifie tout de même à Moïse comme lui, créateur de la psychanalyse.
C'est-à-dire ?
Mais il a été le créateur de la psychanalyse, il a été le chef de la horde. D'ailleurs, il l'a dit à quelques fois.
Les réunions du mercredi soir, c'était
voilà,
la horde.
Voilà, absolument.
À lui,
mais c'était... il a dit quiconque admet la sexualité infantile, le complexe d'Édipe et l'inconscient appartient pour toujours à la horde sauvage.
Mais est-ce que Freud, alors, lui, n'était pas dans la position du père qui refuse qu'on le dévore, précisément ?
Ah, si, si,
et
si,
c'est
si.
Même l'origine des dissensions au sein des premières écoles psychanalytiques.
Ah, mais bien sûr, bien sûr. Et les combats avec un certain nombre d'élèves. Et avec aussi le souci de Freud de ne pas laisser se dénaturer les points clés qui constituent la spécificité de la psychanalyse, entre autres le complexe d'Œdipe, la sexualité infantile et l'inconscient. Et dès que quelqu'un s'éloignait de cela, Freud, Jung par exemple, avec l'inconscient collectif, eh bien il s'en écartait.
Paul Denis, je rappelle que vous êtes psychanalyste et membre de la Société psychanalytique de Paris. Je signale également, j'en ai parlé tout à l'heure, votre que sais-je sur les phobies, donc aux Presses universitaires de France. De Freud, chers auditeurs, pour aujourd'hui, lisez, relisez, plongez-vous dans Un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci, que vous trouvez en folio dans une édition bilingue, avec une excellente préface de Jean-Bertrand Pontalis, il nous pardonnera, et L'homme Moïse et la religion monothéiste, que vous trouvez en folio, une non moins excellente préface de Marie Moscovici.